RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et on poursuit ce matin notre semaine spéciale à l'approche des élections européennes du 9 juin. On évoquera demain la crise migratoire avec Madeleine Vatel et jeudi la défense et la paix avec Jean-Baptiste Labeur. Mais ce matin, on parle agriculture, un sujet clé de ces élections puisque l'agriculture représente un tiers du budget de l'Union européenne. Un sujet capital également parce que l'agriculture est marquée par une crise profonde dans toute l'Europe. Alors on va essayer d'y voir plus clair sur les enjeux et les perspectives pour ce secteur et sur ce qui les différentes forces en présence proposent sur le sujet. Revenus des agriculteurs, transition écologique, souveraineté et sécurité alimentaire du continent, qualité des produits agricoles, relations commerciales, question du modèle agricole et en particulier de la taille des exploitations et même règles de la PAC qui déterminent le modèle. Bref, les enjeux, vous l'entendez, sont nombreux. Alors, quelle réponse faut-il apporter? On va en discuter avec nos invités. Vous êtes les bienvenus en direct avec vos témoignages pour apporter vos idées sur ces aspects à partir de votre propre expérience d'agriculteur peut-être ou de consommateur, hein, tout simplement, des produits agricoles puisque nous le sommes toutes et tous. On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Penser, c'est bien. Agir, c'est bien aussi. Et c'est ce qu'on fait chaque jour dans cette émission. On ne va pas y échapper dans la seconde partie à 10h. On parlera des jeunes. Comment la jeunesse s'empare-t-elle de l'agriculture au regard de l'Union européenne? Ce sera donc dans la seconde partie à partir de 10h avec de beaux projets. Mais en attendant, on retrouve Anne Kerléo. Bonjour Anne.
Bonjour Melchior, bonjour à toutes et à tous.
Pour entrer dans notre sujet de ce matin, vous commencez par nous rappeler pourquoi l'agriculture est un sujet aussi important dans l'Union européenne et donc dans le contexte des élections du 9 juin.
Alors vous avez commencé à nous le dire, hein, Melchior, le budget de l'agriculture c'est un tiers du budget de l'Union. 55 milliards d'euros d'aide sont versés chaque année aux agriculteurs européens et la France est de loin le pays qui bénéficie le plus de ces aides avec 9 milliards et demi d'euros en 2022. Selon la Commission européenne, en matière agricole jusqu'à 40% des lois adoptées en France ont une origine européenne. En moyenne, pour les autres secteurs, c'est plutôt autour de 20%. Et puis, si l'agriculture est un sujet important dans l'Union, c'est parce qu'elle l'est dans l'absolu, partout dans le monde, tout simplement parce qu'il est question de nos besoins vitaux, de notre survie. Pour vivre, il faut manger. Il ne suffit pas de manger, il est nécessaire de bien manger, d'avoir accès à des produits sains. Une question de santé, donc, mais pas seulement. Une question sociale aussi, puisqu'il s'agit que tous et toutes, quel que soit notre niveau de revenus, nous ayons accès à une nourriture saine. Et puis, bien sûr, l'agriculture est directement liée à l'environnement, préoccupation majeure et urgente. Alors, quand ça gronde dans le monde agricole, partout en Europe, quand les paysans peinent à vivre de leur travail, parfois au point de s'inquiéter de la possibilité de le poursuivre, la question n'est pas catégorielle, mais bien sociétale. La question de l'avenir de l'agriculture européenne nous concerne tous et implique des choix politiques. Choisir un modèle agricole, notamment, il paraît donc absolument nécessaire de bien comprendre les enjeux et la manière dont les groupes politiques qui se présentent aux élections entendent y répondre, de connaître le modèle qu'ils portent. Et c'est ce qu'on va, avec nos intervenants et intervenantes, essayer d'éclairer ce matin, Melchior. Et j'ajoute que, petit télescopage intéressant, il se trouve qu'en France, l'Assemblée examine à partir d'aujourd'hui le projet de loi d'orientation agricole, projet qui s'intitule très précisément « Projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture ».
Voilà, on est donc au cœur de l'actualité ce matin. Et pour en discuter, Anne, on n'est pas seul, hein, puisqu'on a le plaisir d'accueillir deux invités.
Oui, j'accueille d'abord Faustine Bas-des-Fossés. Bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez à Bruxelles pour le Bureau européen de l'environnement, une fédération d'ONG environnementales qui réunit, si je suis bien informée, 180 associations dans 38 pays, pour la plupart membres de l'Union européenne, et vous y êtes en charge particulièrement des questions d'agriculture et de santé. Avec nous aussi Luc Vernet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes basé vous aussi à Bruxelles, vous travaillez pour le think tank Farm Europe. Auparavant, vous avez travaillé au Parlement européen et à la Commission déjà sur les questions agricoles, donc que vous maîtrisez très bien au niveau européen.
Merci à tous les deux de nous accompagner jusqu'à 10h dans cette émission. Je rappelle que vous pouvez réagir en temps réel au 04 72 38 20 23. En tout cas, Anne, on peut démarrer cette émission. Le programme est chargé, c'est le moins que l'on puisse dire.
Et peut-être pour rebondir sur ce point d'actualité, le fait que le débat démarre aujourd'hui à l'Assemblée en France sur la loi d'orientation agricole, ça vaut le coup d'éclairer un peu justement l'articulation en fait entre la manière dont les choses se jouent entre la France et l'Europe. Finalement, comment s'articulent les décisions à ces deux niveaux, Faustine Badet-Fossé, peut-être pour commencer.
Effectivement, vous avez mentionné dans votre introduction la politique agricole commune, qui est une politique clé qui façonne finalement nos activités agricoles et notre modèle agricole. Et cette politique est décidée au niveau européen. Mais il faut savoir que l'Europe, c'est une assemblée finalement de 27 États membres. Et évidemment, la France joue un poids extrêmement important dans les négociations autour de la politique agricole commune. Mais il y a un autre acteur aussi qui joue un rôle important dans les négociations, c'est le Parlement européen. Et nous sommes à l'approche, comme vous l'avez dit aussi, des élections européennes le 9 juin prochain, enfin du 6 au 9 juin prochain en Europe. Et les eurodéputés qui sont élus directement par les citoyens européens jouent aussi un rôle important dans la construction de la politique agricole commune.
Et c'est pour ça qu'on fait cette émission, en particulier pour éclairer le vote lors des élections européennes. Luc Vernet, peut-être un mot aussi sur cette articulation-là. Ce qui se joue à l'Assemblée nationale ces jours-ci est complètement séparé des enjeux des élections européennes ou pas vraiment ?
Non, absolument pas. Il faut bien avoir en tête que depuis une soixantaine d'années, l'Union européenne a fait un choix qui est le choix d'avoir une souveraineté alimentaire partagée entre les Européens à l'échelle européenne. Et ce choix s'est traduit par une politique extrêmement forte qui est la politique agricole commune qui est structurante pour l'ensemble des agricultures de l'Union européenne et qui permet de faire en sorte que de donner une dynamique, une orientation à l'ensemble des agricultures de l'Union européenne en fonction d'un débat politique qui a lieu au niveau européen. Et donc on a l'agriculture en partage au niveau européen et le moment des élections européennes est un moment extrêmement important parce qu'il permet à chacun aussi de s'approprier cette politique agricole commune, de voir à quoi elle sert, quelles ont été ses orientations. Et définir aussi notre rapport à l'agriculture pour les prochaines années. Et ça s'articule aussi avec un débat national, parce que d'abord, la politique agricole commune laisse des marges de manœuvre aux États membres pour appliquer ces règles. Donc il y a des mises en œuvre au niveau national, il y a aussi des programmes au niveau régional. Et il est important que les outils de la politique agricole commune soient utilisés de façon très stratégique par les États membres, parce que on voit bien qu'on est sur un marché européen et chaque État membre a des sensibilités différentes dans les débats. Donc on voit bien qu'il y a à la fois cet échelon européen d'orientation de l'agriculture, mais il y a aussi cet enjeu de concurrence sur un marché commun agricole qui fait que chaque État membre doit aussi regarder un peu ce qui se passe à côté chez son voisin. Et c'est de plus en plus le cas, parce que ces dernières années, il y a eu une tendance qui a été extrêmement forte, qui est d'ajouter à la politique agricole un certain nombre de flexibilités, donc de choix des États membres dans la mise en œuvre des programmes. Et ce sont ces flexibilités qui sont aujourd'hui débattues, discutées en France et partout en Europe.
Oui, parce que cette politique agricole commune, évidemment, elle évolue, elle n'est pas la même aujourd'hui que quand elle a été mise en place. Peut-être que ça vaut le coup qu'on passe du temps pour essayer de bien comprendre justement qu'est-ce que c'est que la politique agricole commune, parce que c'est vraiment le cœur du réacteur en matière d'agriculture européenne. Cette PAC, d'ailleurs, ça va être l'un des premiers grands chantiers de la future mandature, puisqu'elle doit être révisée, je crois, à partir de l'automne prochain. Ce sera une des premières grandes réformes. Alors, si on essaye de se dire... Peut-être la PAC pour les nuls, si vous deviez chacun d'une phrase ou deux définir ce qu'est la PAC, vous l'avez déjà un peu fait, mais en ressaisissant comme ça d'une phrase, comment vous le diriez, vous, Faustine Badet-Fossé, pour expliquer à quelqu'un qui n'aurait jamais entendu parler de la PAC de quoi il s'agit ?
Alors, en une phrase, évidemment, c'est un défi considérable. Peut-être en quelques phrases, si vous me le permettez. Comme vous l'avez dit, et c'est un élément très important, c'est un des plus gros postes de dépenses du budget de l'Union européenne. On parle d'un tiers du budget, donc plus de 55 milliards d'euros par an qui sont dépensés pour l'agriculture dans le cadre de la politique agricole commune. Et vous l'avez répété aussi, la France est de loin le pays qui en bénéficie le plus à hauteur de 9,5 milliards d'euros par an. Donc c'est considérable, c'est un montant avec lequel on peut faire potentiellement pas mal de choses. La PAC, elle fait partie des éléments clés de la construction européenne. Elle a vu le jour au tout début, à la genèse de la construction européenne. C'est vraiment, elle en fait partie, elle fait partie de l'histoire de la construction européenne. Et puis, il faut se remettre dans le contexte dans les années 60, donc et au début de l'Union européenne. Effectivement, on est dans une Europe qui était encore marquée par les impacts de la guerre et il y avait alors un besoin d'accroissement de la productivité agricole. Et on peut dire que la PAC a finalement été plutôt forte dans ce sens-là et a plutôt réussi au point qu'on s'est retrouvé finalement avec des effets néfastes de ce soutien à la production, puisqu'on a parlé de surproduction, enfin d'une approche extrêmement poussée du productivisme qui a commencé aussi à avoir des impacts sur le plan environnemental. Et donc à partir des années 90, on a vu qu'il y a eu des changements progressifs d'orientation pour essayer de résorber cette surproduction et aussi pour prendre en compte un peu mieux les problèmes environnementaux. Je dis un peu mieux parce que on est très loin d'une prise en compte suffisante quand on voit où se trouve l'agriculture aujourd'hui et les enjeux auxquels doivent faire face et font face les agriculteurs et finalement le peu de moyens ou du moins la façon dont les États articulent la PAC aujourd'hui est loin d'être suffisante pour amorcer la transition nécessaire. Mais j'imagine qu'on va en parler un peu plus tard. Mais donc voilà, donc pour résumer, la PAC, c'est un élément clé de la construction européenne. C'est un des plus gros postes de dépenses budgétaires, 55 milliards d'euros par an. Et peut-être une dernière chose qui est aussi importante et qui a été dit, je pense, dans les médias assez souvent, et c'est quand même quelque chose qu'il faut garder en tête, comme ça a été dit aussi par Luc. Enfin, les États font des choix, il y a beaucoup de choix au niveau national, la façon dont les aides sont articulées. Mais aujourd'hui, la triste réalité, c'est que 80% des aides de la PAC va à 20% des agriculteurs.
Alors justement là-dessus, pour que Luc Vernet puisse réagir ensuite, je propose peut-être Melchior de nous lire vous venez je crois de recevoir un message d'auditeur qui évoque ces questions-là justement.
Ouais, tout à fait, ouais, c'est Jean-Jacques qui nous a envoyé un mail à l'adresse direct@rcf.fr. Il nous dit « L'Europe et la France continuent de privilégier un modèle d'agriculture productiviste, la PAC profitant principalement aux exploitations de grandes surfaces. L'agriculture rurale et à taille humaine se meurt, ne disposant pas de financement à la hauteur de ses besoins et souffrant d'accords internationaux favorisant l'importation de nourriture à bas prix, rendant la vie difficile à la petite agriculture française. » Bah oui, c'est vrai qu'on est en plein dans le sujet. Luc Vernet, comment vous réagissez à ce témoignage de Jean-Jacques? Est-ce qu'il a raison de dire ça?
Alors, c'est une question extrêmement compliquée parce que effectivement, ce qu'on essaye de... Alors, je rappelais deux choses. D'abord, et vous aviez mentionné juste avant notre émission que l'objectif, c'était de penser pour agir. Et je pense que ce qui est important d'avoir en tête systématiquement, c'est que la politique agricole commune est un levier, mais le premier levier, le premier choix de modèle agricole, c'est le choix qu'on fait quotidiennement, nous tous, consommateurs, quand on fait des choix en rayon. Et ça, c'est un élément central à avoir en tête. Sur cet élément-là, la politique agricole commune vient se greffer, vient donner une orientation. Et c'est un élément qui fait que les agriculteurs sont les Européens du quotidien, les premiers Européens du quotidien, parce qu'ils ont un lien direct entre leur activité et l'Union européenne, et qui leur envoie des signaux à travers la politique agricole commune. Et ces signaux essayent de trouver un équilibre entre trois dimensions, qui sont, un, l'agriculture, secteur et sa dimension économique, deux, la dimension environnementale, l'utilisation durable des ressources naturelles, et trois, la dimension consommateur, accessibilité et qualité des produits alimentaires. Et donc l'enjeu des politiques publiques qui sont mises en place, c'est de trouver un optimum entre ces trois objectifs, et bien évidemment c'est un équilibre qui est instable, qui est sous les coups à la fois de la concurrence internationale, et votre auditeur a mentionné le défi de l'ouverture et du commerce, qui est un vrai défi où, sur lequel l'Union européenne fait souvent preuve de schizophrénie. Est-ce qu'on ouvre nos marchés à des produits qui ne correspondent pas au mode de production qu'on met en place chez nous au niveau européen et aux attentes qu'on a sur nos agricultures? Donc il y a souvent une forme d'incompréhension sur ce sujet-là, et donc il faut réussir à trouver les bons équilibres. Après, sur la question du modèle, de qui on aide, c'est une question extrêmement compliquée, et ce chiffre de 80-20 mentionné revient souvent dans les débats. Il faut avoir une chose en tête, c'est que quand on prend 80% des aides qui vont à 20% des agriculteurs, on a là, dans les 20%, 20% des agriculteurs qui produisent 80% de notre alimentation. Et quand on regarde ces 20%, qui sont-ils ? En réalité, c'est toutes les exploitations européennes, jusqu'à celles qui font 10, 11 hectares en moyenne. Donc dans ces 20%, on a des tout petits agriculteurs aussi, ou des agriculteurs moyennes. Ce qui se passe, c'est qu'il faut avoir en tête qu'au niveau de l'Union européenne, on a un grand nombre d'agricultures, avec un S, y compris, quand on parle d'Europe centrale et orientale, une agriculture aussi de subsistance, une tradition aussi d'avoir une production alimentaire. Donc le nombre effectif d'agriculteurs au niveau européen est extrêmement grand. Donc ce chiffre est souvent donne une image un peu faussée et très déséquilibrée. Alors, des aides et des programmes agricoles qui aident quand même une grande diversité d'agriculteurs.
Pour rentrer justement un peu dans le détail de la, parce que les subventions, c'est vraiment le cœur de la PAC. Pour comprendre comment elles sont distribuées, quand on dit 80% à 20% des exploitations, par exemple, on entend souvent dire, et puis c'est aussi une revendication de leur part, que les exploitations de maraîchage reçoivent peu ou pas de subventions. Comment ça s'explique? En fait, quels sont les critères qui sont adoptés, Faustine Badefossé, pour attribuer les subventions?
Peut-être, je voudrais juste revenir sur les chiffres d'abord. Un autre chiffre qui est assez parlant, c'est que aujourd'hui la moitié des agriculteurs en Europe sont des petits agriculteurs qui ont des exploitations d'une taille plus ou moins équivalente à 5 hectares ou moins, et ils doivent se partager seulement 6% de ce qu'on appelle les paiements directs. Et donc ça vient aussi à votre question, donc sur la façon dont les aides et quels sont les critères. Donc dans la PAC, il y a deux piliers. Il y a les aides directes, donc qui sont des aides à l'hectare, des aides annuelles, et il y a les paiements du deuxième pilier, donc qui sont des aides pluriannuelles avec des objectifs un peu plus définis. Au cours des dernières réformes, il y a des critères qui se sont rajoutés pour l'octroi des paiements directs, donc de la conditionnalité, et je voudrais revenir dessus un peu plus tard, si vous me le permettez, puisque cette conditionnalité a été sabotée en quelques semaines ces dernières semaines.
Parce que c'est un grand mot, conditionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Conditionné à quoi, en fait?
En gros, il faut que les agriculteurs respectent certaines règles qui sont en phase avec la législation environnementale et de santé et de bien-être animal de l'Union européenne, et quelques pratiques, des bonnes pratiques agroéconomiques afin de recevoir ces aides. Et au-dessus, on a rajouté un système d'éco-régime lors de la dernière réforme pour aller un peu au-delà de cette conditionnalité. Mais il faut savoir, comme l'a dit Luc tout à l'heure, que les États ont beaucoup de flexibilité dans la façon dont ils articulent ces aides. Et malheureusement, ce que mon organisation a pu remarquer, c'est que au plus il y a de flexibilité octroyée aux États, au plus on a une course vers le bas, finalement, quand il s'agit d'ambition environnementale qui, par ailleurs, est nécessaire. Mais in fine, le problème des aides aujourd'hui, même s'il y a ces critères qui se rajoutent aujourd'hui, qui sont un peu de peinture verte finalement, sur une politique qui n'est plus fonctionnelle et qui favorise ce modèle productiviste qui est à bout de souffle, c'est que ces aides sont distribuées à l'hectare et donc in fine, inexorablement, elles favorisent l'expansion, l'agrandissement des exploitations agricoles et elles rendent aussi difficile, puisque j'ai entendu que c'était un sujet qui sera traité après, à partir de 10h ce matin, l'entrée des jeunes agriculteurs dans le monde agricole et l'accès finalement aux terres agricoles.
Alors, on voit bien hein, que vous avez, Luc Vernet et Faustine Badefossé, une approche un peu différente sur le modèle agricole et la question de savoir comment il faut attribuer notamment les subventions. C'est aussi ce qu'on a envie d'essayer de comprendre ce matin, la question du modèle finalement qui est porté par les différentes listes en présence. Pour vous, lors de ces élections européennes, justement, est-ce qu'il y a des approches différentes et si oui, lesquelles, des modèles proposés par les différentes liste en présence, Luc Vernet.
Oui, alors c'est certainement aujourd'hui l'agriculture est un sujet politique. Il y a des sensibilités différentes et on voit bien que la Commission européenne elle-même, les 5 dernières années, a fortement politisé le débat parce que et dans un sens où l'agriculture est devenue est redevenue un sujet majeur d'orientation politique. La question est plus aujourd'hui de savoir quel est le chemin choisi pour faire les transitions, puisque les transitions elles-mêmes, les agriculteurs vivent, ressentent le changement climatique, ont des défis économiques face à eux, et on voit bien que les modèles agricoles sont challengés, si je peux utiliser ce terme. Mais la question, c'est de savoir quel est le chemin que l'on construit pour faire ces transitions. Et dans ce sens-là, il y a un peu une ligne de partage des eaux qui, entre ceux qui pensent que c'est une forme d'extensification de l'agriculture qui va permettre de réaliser ces transitions, et de l'autre, une vision qui est plus celle de l'investissement et de l'innovation qui va permettre de surmonter les défis à venir pour trouver des solutions et avoir une performance environnementale et économique dans ces transitions. Et donc c'est un peu ces deux approches qui représentent des sensibilités différentes se reflètent dans les différents programmes qu'on trouve. À l'échelle nationale, en France, ils ont été peu définis. Pour le moment, il y a des concepts généraux, mais dans les débats européens qui se sont structurés extrêmement fortement ces derniers mois, parce que du fait des mouvements agricoles, on a vu que le débat a été extrêmement fort, y compris au sein du Parlement européen, dans les groupes politiques. On voit bien que ces deux chemins un peu coexistent au niveau européen, et c'est entre les deux qu'il faut trouver des équilibres pour construire des majorités et des majorités qui deviennent extrêmement compliquées à construire et qui montrent, et ça c'est un message important, qu'on a aussi besoin de prendre un peu de recul et de recréer, de reconstruire du consensus sur le sujet agricole parce qu'au final, on a un élément, c'est qu'on a l'alimentation en partage, nous, Européens, et on doit trouver un consensus qui corresponde à la diversité. Vous avez parlé de modèle agricole. Moi, je pense qu'il y a un S à ce modèle. Il y a un S, y compris en France, mais dans l'Union européenne, entre deux exploitations qui sont à 1-2 kilomètres, on part parfois d'un terroir à l'autre, d'une réalité de production à l'autre. Un agriculteur ne peut pas faire la même chose et donc il faut bien voir les équilibres et faire en sorte d'accompagner les agriculteurs pour qu'il y ait une adéquation entre leur exploitation agricole, la réalité agronomique qu'ils vivent au quotidien et les marchés sur lesquels ils commercialisent leurs produits, pour qu'il y ait cette cohérence. Et c'est cette cohérence qui permet d'avoir une agriculture en bonne santé et un environnement en bonne santé. Donc ça, c'est des équilibres pour trouver des optimums de production et pour accompagner les agriculteurs parce que qui se remettent en cause au quotidien à chaque cycle de production.
Faustine Badet-Fossé, quelle est votre lecture, vous, des propositions en présence, finalement, au regard de tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent ?
En une minute.
Oui. Ouf.
Avant, on va marquer une pause après. Voilà.
D'accord. Oui, ce que je voulais quand même faire, c'est que pour parler des modèles qui sont présentés et des orientations qui sont présentées, je pense que c'est important de se rappeler où on est et la crise agricole à laquelle on fait face. On a parlé au début des manifestations, etc. Et les manifestations, les revendications principales étaient des revenus décents et des prix adéquats, parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs n'arrivent même pas à couvrir leurs coûts de production. Mais par ailleurs, on est aussi face à un challenge environnemental considérable. Le réchauffement climatique est une vraie menace et aujourd'hui la menace numéro un à la productivité. On a 60 à 70% de nos sols qui sont dans un état défavorable en Europe. 70%, 80% des insectes qui ont diminué ces dernières décennies suite à une agriculture intensive principalement. La même chose pour les oiseaux. Et par ailleurs, par exemple, on gaspille 20% de ce qu'on produit.
Allez, on va. Merci beaucoup d'avoir respecté le temps, une minute pile. Je vous remercie beaucoup, Faustine. On va marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant avec nos deux invités, avec vous, Anne-Claire Léo. On continue de parler des enjeux en termes d'agriculture à l'occasion des élections européennes. C'est une semaine spéciale dont Je pense donc j'agis. Et vous avez la parole pour témoigner. Vous êtes agriculteur ou consommateur ou les deux. Vous avez la parole au 04 72 38 20 23. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne-Claire Léo, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
On parle d'agriculture ce matin avec Anne-Claire Léo et nos deux invités, Faustine Badet-Fossé. Vous êtes à Bruxelles, vous travaillez pour le Bureau européen de l'environnement. Et Luc Vernet, vous êtes également à Bruxelles. Et on remercie d'ailleurs l'équipe qui vous accueille en studio ce matin. Vous travaillez pour le think tank Farm Europe. Je rappelle que vous pouvez réagir en direct ce matin à cette émission pour apporter vos idées sur ces aspects à partir de votre expérience d'agriculteur ou de consommateur de produits agricoles. 04 60 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. Allons, continue.
Oui, alors Faustine Badet-Fossé évoquait juste avant la pause les questions environnementales. On va y revenir évidemment, même si Melchior, vous en avez déjà parlé hier, mais c'est vrai que le lien entre agriculture et environnement est évident. Mais avant cela, on a ouvert tout à l'heure d'autres pistes et notamment on a évoqué la question de la concurrence. Alors je voudrais qu'on s'y arrête un moment parce que c'est un des éléments qui était au cœur des manifestations agricoles ces derniers temps. La question de la concurrence et des traités de libre-échange. Sur cette question-là, là encore, deux choses. D'une part, que dit l'Europe aujourd'hui, notamment sur la question du traité entre l'Union européenne et le Mercosur, qui est en suspens pour l'instant, et puis plus globalement sur la question des traités de libre-échange. Et puis, quels sont les points de vue en présence qui se manifestent dans les différentes listes qui se présentent aux élections européennes, Luc Vernet ?
Oui, alors sur ce sujet-là, c'est vrai que c'est un point problématique. Depuis des années, il y a une incompréhension de l'agenda commercial européen, qui est un agenda hérité d'il y a une vingtaine d'années. Et je pense qu'il y a Mario Draghi, il y a une quinzaine de jours, qui a fait un discours extrêmement important et qui a souligné que l'Union européenne agissait avec un logiciel dépassé et qu'elle n'avait pas pris en compte la mesure des jeux de grande puissance. Et qu'elle restait attachée à un mode d'ouverture commerciale avec une certaine forme de naïveté comme dans des années 90-2000. Et donc clairement sur ce sujet-là, on a un problème sur le sujet agricole, non pas parce qu'il faille se retrancher et se fermer derrière de grandes murailles, mais parce qu'il y a une cohérence, une adéquation à mettre en œuvre entre les attentes qu'on a dans l'Union européenne et les accès, les ouvertures de marché qu'on fait sur les produits agricoles. Et si on regarde l'agenda commercial aujourd'hui, vous avez mentionné le Mercosur, donc l'Amérique latine avec des grands producteurs agricoles comme le Brésil, les grandes puissances agricoles, mais on a aussi eu des discussions avec la Nouvelle-Zélande qui est extrêmement puissante, notamment sur le secteur ovin, qui est important pour de nombreuses régions rurales en France, et pour le secteur laitier avec une coopérative très puissante, totalement intégrée en Nouvelle-Zélande, des discussions avec l'Australie. Donc en fait, l'agenda commercial de l'Union européenne ces dernières années n'a été que porteur de mauvaises nouvelles pour le monde agricole européen et français en particulier, et souvent pour les mêmes secteurs, et en particulier le secteur de l'élevage pour lequel on a distribué des quotas, alors même que c'est un secteur qui est déjà en grande difficulté par ailleurs. Donc c'est vrai que aujourd'hui c'est un sujet qui est au centre des débats parce qu'il y a une nécessité de reconstruire une vision stratégique de quel commerce, pourquoi faire, et de retrouver un peu le sens de la protection de ce qui est important pour nous. Et il y a un concept clé qui a été discuté ces dernières années, qui a été beaucoup poussé, notamment sous présidence française, qui est celui des clauses miroirs, c'est-à-dire n'importons pas l'agriculture dont on ne veut pas chez nous en Europe. Donc il y a un concept, sauf que on voit aujourd'hui que dans la mise en œuvre concrète de ce concept, sur la question des hormones de croissance dans l'élevage ou sur la question de la déforestation, le bât blesse sur la mise en œuvre. Donc il y a de belles ambitions, hein, dire que les Français ne vont pas avoir de déforestation importée dans leur café, dans leur cacao, dans les huiles qu'ils importent. C'est un très beau concept, sauf que aujourd'hui, on voit que dans la mise en œuvre, on a de grandes difficultés et on a du mal, aujourd'hui, la Commission européenne a du mal à dire au Brésil, par exemple, que c'est un pays à haut risque de déforestation et à imposer aux grands traders mondiaux des règles de ségrégation de leur chaîne d'approvisionnement pour avoir une garantie de non-déforestation. Et ça, c'est un vrai défi de crédibilité pour nos approches européennes, de faire en sorte qu'on soit sérieux et clair sur ces problématiques de commerciales.
Faustine Badefossé, peut-être pour poursuivre sur cette question de la concurrence, mais dans une autre direction, quelque chose qui est encore peut-être plus délicat à aborder, c'est la question de la concurrence au sein même de l'Union. On peut voir par exemple ce qui se passe sur les fruits et légumes avec une concurrence de l'Espagne vis-à-vis de la France. Ça, comment c'est approché actuellement par l'Union européenne? Et là encore, est-ce qu'on a une vision de ce que peuvent proposer les différentes forces en présence pour les élections européennes?
En fait, je pense que cette question de commerce international, mais aussi intra-Union européenne, nous ramène finalement sur le point qui avait été fait précédemment par Luc Vernet sur le système alimentaire dans sa globalité, dans son intégralité. Aujourd'hui, la crise du modèle agricole reflète finalement une crise de notre système alimentaire. Il faut savoir qu'il n'y aura pas de production durable si on n'a pas une consommation durable par ailleurs. Sauf qu'aujourd'hui, il y a plusieurs mécanismes qui font que les consommateurs sont poussés à avoir une consommation qui n'est pas forcément durable et qui n'est pas forcément tenable. Ça l'est par le biais du marketing qui pousse à consommer par exemple des aliments ultra transformés ou une surconsommation qui pousse à une surconsommation de produits dérivés animaux. Mais il y a aussi un problème fondamental qui est le problème des prix. Et alors, c'est un peu technique ce que je vais dire, mais le problème des externalités. Donc, en gros, des impacts négatifs que certaines productions ont sur l'environnement ou sur la santé, qui finalement ne sont pas reflétés dans le prix pour les consommateurs. Et on se retrouve dans une situation qui est complètement ubuesque aujourd'hui, où les aliments qui ont les impacts les plus néfastes sur notre santé et sur l'environnement, et donc qui sont à risque aussi, qui mettent en péril notre futur et celui de nos enfants, sont les aliments qui finalement sont les moins chers, et donc qui sont évidemment, in fine, plus attrayants. Alors que les options les plus saines, les plus durables, sont pas souvent les plus chers et les plus difficiles d'accès. Donc c'est pour ça que quand j'entendais Luc Vernet qui disait « bon bah c'est les consommateurs qui ont une responsabilité », oui, mais il faut savoir que les consommateurs ne décident pas seuls et qu'il y a beaucoup de facteurs qui font que les consommateurs prennent certaines décisions et que ces facteurs sont aussi orientés par des choix politiques. Et c'est pour ça qu'il faut revoir dans son intégralité notre système alimentaire et c'est comme ça qu'on réussira aussi à revoir notre système agricole.
Je vous propose d'entendre Mathieu au 04 72 38 20 23. Vous êtes à Rennes. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, je suis Philippe Grégoire, qui est un agriculteur qui adhère à République Souveraine. Et en fait, cet agriculteur dit que le coût de revient du prix du lait coûte 1 euro au litre à l'agriculteur, alors qu'il est vendu beaucoup moins cher à l'étalage. Donc en fait, Philippe Grégoire dit qu'en fait, on assiste à un phénomène économique qui arrive souvent, c'est la concentration, c'est qu'en fait, les industries agroalimentaires sont toutes regroupées en un seul lobby, et je crois qu'il s'appelle Unigrain, à ce que j'ai compris. Et donc, ce lobby décide lui-même des prix agricoles. Alors, au Canada, c'est l'État qui fixe les prix agricoles. C'est qu'en fait, l'agriculteur, il est en bonne situation au Canada parce que c'est l'État qui fixe les prix. Alors, ça pourrait être mis en œuvre facilement de fixer les prix au niveau français, mais comme c'est pas l'UE est contre ça, le Macron, il veut pas. Donc en fait, les prix agricoles sont pas fixés par l'État, alors que ce serait une mesure facile à prendre, quoi.
Eh ben, écoutez, c'est très intéressant, Mathieu. Ça nous permet d'ouvrir un peu le sujet. Faustine Badefossé, je me tourne vers vous par rapport à ce témoignage sur le lobbying. Mathieu nous dit aussi qu'il faudrait peut-être appliquer la loi antitrust pour que les lobbying alimentaires ne gèrent pas à eux seuls le marché.
Tout à fait. Je ne peux qu'être d'accord avec ces remarques. On a effectivement une concentration de pouvoir dans la chaîne alimentaire qui est un vrai problème et un vrai problème pour les agriculteurs aujourd'hui et qui faisait partie des revendications de nombreux agriculteurs dans la rue dans toute l'Europe et qui malheureusement n'ont pas vraiment été prises en compte par les décideurs qui se sont attaqués, acharnés contre le peu de réglementation environnementale qui reste et le peu d'ambition environnementale, alors que celles-ci sont nécessaires et urgentes pour aider les agriculteurs dans leur transition, encore une fois nécessaires et urgentes au regard des chiffres. Et il y avait aussi, je tiens à le rappeler, une proposition sur la table d'une loi cadre pour un système alimentaire durable qui permettait justement de rassembler un peu toutes ces pièces du puzzle, de toute cette incohérence et la rendre plus cohérente dans notre système alimentaire et traiter ces questions de concentration des pouvoirs. Malheureusement, cette initiative a été tuée un peu dans l'œuf finalement et n'a pas vu le jour sous ce mandat. Donc on espère vraiment qu'elle fera l'objet d'une priorité après les élections.
Là encore, c'est difficile de se pencher sur chacun des programmes pour regarder ce qui est dit en la matière, ce qui n'est pas dit d'ailleurs pour l'instant. Mais en tout cas, c'est des grilles de lecture qu'on peut avoir avant d'aller voter pour décider en fonction de tout ce qu'on se dit là. Luc Vernet, peut-être aussi d'un mot sur ce que vient de nous dire cet auditeur.
Oui, alors ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le problème de la concentration, il n'est pas dans le monde agricole. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'accompagner et d'aider le monde agricole à se structurer pour peser et pour trouver de la valeur, pour trouver des marges de manœuvre économiques et financières pour pouvoir faire les investissements et en particulier les investissements de transition. Et c'est pour ça, ce que Faustine a mentionné, c'est important, les mouvements, les grandes manifestations qu'on a eues à travers l'Europe, je pense qu'il faut avoir en tête une équation qui est très importante, c'est que ces 20 dernières années, les attentes et les demandes de la société à travers la politique agricole commune, notamment, ont augmenté, mais en même temps, les aides ont fortement baissé. Il faut avoir en tête que les aides européennes, ces 20 dernières années, ont baissé de plus de 30%, ce qui a eu un impact direct sur le revenu à l'hectare. Et dans le même temps, ces aides, pour les obtenir, ont été conditionnées à des règles de plus en plus importantes. Et donc, on est le monde agricole est confronté à cette réalité économique difficile d'être face à des acteurs extrêmement concentrés et de plus en plus concentrés, avec des soutiens publics qui sont plus faibles, qui s'érodent et qui sont plus difficiles à aller chercher. Et donc, il y a une équation extrêmement compliquée qui fait qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important et positif de voir que l'agriculture, en tant que telle, redevient un élément central du débat européen. Et c'est intéressant de voir se positionner aussi les différents acteurs politiques sur ces sujets-là et sur leurs ambitions pour soutenir, aider les agriculteurs face à tous les défis auxquels ils font face. Et ça, je pense que ce sera pour le moment, il y a quelques grands éléments. On voit qu'il y a eu l'idée notamment d'états généraux, d'égalim européens, hein, en miroir de la loi qui a été faite en France, qui vise à construire le prix alimentaire en marche avant, donc à mieux rémunérer les efforts qui sont faits par les agriculteurs. Donc ça c'est un élément du débat qui s'ouvre et qui aura lieu au niveau européen, et c'est un élément central depuis 2015-2016. Il y a plusieurs lois au niveau européen qui essayent d'accompagner, d'aider les agriculteurs à se structurer, à créer des organisations pour peser, pour mieux négocier. C'est un élément clé pour l'avenir.
Justement, vous évoquez la question du revenu des agriculteurs. C'est évidemment la question, enfin une question majeure en tout cas de cet enjeu agricole. Et c'est l'une des grandes questions qui était posée au moment des différents mouvements qui ont secoué toute l'Europe, mouvements de manifestation des agriculteurs. Alors Faustine Badé-Fossé, peut-être pour nous éclairer, de quoi est fait le revenu agricole aujourd'hui? C'est peut-être difficile de le dire en moyenne parce que c'est des situations très variables, on l'imagine, mais il y a d'une part le prix qui est payé au producteur, et puis il y a les subventions. Est-ce qu'on a une idée de la proportion de chaque, et puis comment on peut imaginer le revenu agricole demain pour qu'il soit juste et rémunérateur pour les agriculteurs?
Oui, alors je voudrais revenir aussi par le biais de votre question à ce qu'a dit Luc Vernet, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il a mentionné sur le montant de la PAC et le fait que, alors certes les montants ont baissé, mais dire qu'il faut une PAC plus forte, si on regarde les impacts de la PAC aujourd'hui et le fait, comme je l'ai dit dans l'introduction, qu'elle continue à soutenir un modèle productiviste délétère en dépit de quelques petites mesurettes qui ont été ajoutées année après année, ça ne changera rien, bien au contraire, on continuera à avoir ces 80%, 20% et cette répartition injuste. Ce qu'il faut, c'est vraiment repenser les aides PAC. Aujourd'hui, pour certains agriculteurs, et là je touche à votre question, les aides PAC, c'est juste un filet de sécurité finalement, mais c'est largement insuffisant pour qu'ils puissent vivre dignement de leur métier. Mais pour qu'ils puissent vivre dignement de leur métier, il faut repenser le système alimentaire. La PAC est un outil, mais c'est pas tout. C'est-à-dire que c'est un outil qui s'intègre dans un système. Il faut revoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mécanisme des prix, les externalités, etc. Mais si on pense à la PAC elle-même, ce qu'il faut que la PAC fasse aujourd'hui, je rappelle, c'est de l'argent public, c'est un choix politique. Il faut qu'elle soit utilisée pour aider les agriculteurs à cette transition nécessaire. Il y a quelques mois, l'Agence européenne de l'environnement a publié un rapport sur les risques liés au réchauffement climatique et tiré la sonnette d'alarme. L'Europe est le continent qui se réchauffe le plus vite. Nous ne sommes pas prêts et il faut accélérer. C'est pas le moment de freiner. Et ce qu'on a vu ces derniers mois est une marche arrière. C'est critique. C'est critique pour les agriculteurs également. Donc si on pense PAC, la PAC dans le futur, donc après 2024, il faut absolument penser à une transition, une PAC qui aide, une transition juste, puisque évidemment la transition sera plus difficile pour certains que pour d'autres. Et in fine, ce qu'il faudrait, c'est que les agriculteurs soient rémunérés par le biais de la PAC pour ce que le marché ne rémunère pas, c'est-à-dire les biens publics, par exemple, des pratiques qui seraient extrêmement bénéfiques à la biodiversité, au maintien de la qualité des sols, etc. Mais alors, il faudrait que ce soit basé sur des résultats, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui.
Denis, vous êtes avec nous depuis la Vendée. Bonjour Denis.
Bonjour Melchior, bonjour à vous inviter. Oui, moi je voulais parler des externalités là, que votre invité parlait tout à l'heure.
Oui.
J'aurais rajouté le traitement de l'eau pour les pesticides par chez nous. Ça a été calculé que ça coûtait 1600 euros de l'hectare pour traiter les pesticides dans l'eau, pour avoir l'eau potable. Alors moi je me disais, moi que je suis en bio, je dis disons qu'à donner 1000 euros de l'hectare, comme nous c'est de prime pour nous, parce que nous c'est la main d'œuvre qui nous bloque, qui nous coûte très cher, c'est pour ça que nos produits sont, on peut pas être en concurrence avec les conventionnels. Mais en nous redonnant 1000 euros de l'hectare, on embauche du monde, et puis après nos produits seront moins chers que le conventionnel, et tout le monde s'y retrouverait. Enfin, voilà.
Eh ben, merci beaucoup, Denis. Ça nous permet d'ouvrir le champ, hein, sans mauvais jeu de mots. Luc Vernet, c'est une bonne idée de la part de Denis.
Bon, alors sur le bio, je pense qu'il faut bien avoir en tête que c'est une success story de la politique européenne à reconnaître. Et cette success story, elle marche sur deux jambes. La première jambe, c'est la structuration publique d'un modèle avec des règles et des outils d'accompagnement aux transitions, et notamment par le biais des aides à la conversion qui dérisquent les changements pour les agriculteurs. Donc ça, c'est un élément très important. Et le deuxième pilier, qui est un pilier important qu'il ne faut pas avoir en tête, qu'il ne faut pas perdre de vue, pardon, c'est le pilier de la rémunération par le marché, et c'est la valeur ajoutée. Aujourd'hui, les agriculteurs bio ont mis en place un système de valorisation qui est reconnu, perçu par les consommateurs, avec une prime. Malheureusement, on le voit dans la crise profonde et notamment avec l'inflation, ce secteur souffre énormément et a besoin d'accompagnement spécifique pour venir en aide aux agriculteurs qui sont confrontés à des difficultés aujourd'hui, qui ont fait ce choix du bio. Mais il est important de garder cet équilibre, parce que le budget et les finances publiques à eux seuls ne suffisent pas à financer l'intégralité de ce modèle. Et c'est bien les deux, le marché et les accompagnements publics, qui permettent d'avoir une dynamique vertueuse et positive pour le bio. Mais ça, c'est un élément important. Et l'autre élément très important mentionné, ouais, et notamment sur la question, notamment en Vendée, celui de l'eau. L'eau est un sujet central dans les transitions. Mmh. Faustine a mentionné la pression du changement climatique. On a vu, il y a des débats sur l'eau qui sont extrêmement importants. L'eau, c'est vraiment
la clé. Et on en a beaucoup
clé.
Parlé. Ouais, tout à
voilà,
fait.
C'est vraiment la clé dans les gestions de transformation de système, face à des agriculteurs qui peuvent parfois être en système quasiment tropical avec trop d'eau, et en système aride.
Ouais, mais on en avait déjà beaucoup. Pardon, je me permets de vous couper, Luc Vernon. On en a beaucoup parlé, et puis on aura l'occasion de refaire des émissions sur ce sujet. J'aimerais qu'on écoute Ingeborg au 04 72 38 20 23, parce que c'est dans le sujet. Bonjour Ingeborg.
Oui, bonjour. Alors,
allez-y.
Moi, je pense que, en plus des critères environnementaux, que je soutiens absolument, les subventions devraient être aussi accordées en fonction du nombre d'emplois. Et je m'explique, j'achète beaucoup chez des maraîchers.
Oui.
Les maraîchers ont peu d'hectares, mais produisent beaucoup et avec beaucoup de main-d'œuvre. Alors que si on prend le même nombre d'hectares pour un champ de maïs, on voit tout de suite que c'est pas le même nombre d'emplois qui sont, et pas la même production, pas la même valeur de la production qu'un maraîcher.
Voilà, et donc vous parlez plutôt des subventions. Bah, merci beaucoup Ingeborg, on arrive à la fin de cette émission, le programme est encore chargé. Faustine Desfossés, je me tourne vers vous à propos de ce témoignage d'Ingeborg. Les subventions ne devraient-elles pas être attribuées en fonction du nombre d'employés plutôt du nombre d'hectares, en plus des critères environnementaux?
C'est essentiel que on dévie de ce système, je veux dire, délétère du paiement à l'hectare, clairement, avec des objectifs et des résultats ciblés, que ce soit des critères environnementaux ou effectivement liés au nombre d'emplois pour la création de l'emploi. Et ça nécessite de repenser complètement cette politique. Et peut-être que ça me permet de faire un lien avec une question qui a été posée auparavant, à laquelle j'avais pas répondu, qui était les ambitions des différents partis politiques. Après les élections au sujet de la PAC et du futur de la PAC, je dois dire que c'est assez décevant pour beaucoup. Mis à part les Verts et la gauche qui proposent la révision du modèle de la PAC pour vraiment un modèle agroécologique, pour repenser les aides, etc. On voit que même finalement les socialistes et démocrates propose de poursuivre la PAC telle qu'elle est, avec quelques modifications ici et là, mais pas de repenser complètement cette politique. Ça nécessite du courage politique de repenser cette politique clé, mais on n'arrivera pas à répondre au problème de la crise agricole si on ne le fait pas, par ailleurs aussi avec une refonte du système alimentaire, comme je le disais tout à l'heure.
Et justement, si on reste sur les questions environnementales que vous avez beaucoup évoquées, Faustine Badefossé, depuis le début, mais on n'y est pas entré encore à fond, quel regard vous portez sur les évolutions récentes? Vous avez laissé entendre que donc il y avait des reculs. C'est notamment le volet agricole qu'on appelle farm to fork, de la ferme à la fourchette ou de la ferme à la table, qui est le volet agricole du pacte vert, pour dire vite. Et vous constatez qu'il y a des reculs là-dessus ces derniers temps. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus?
Tout à fait. On est face à de nombreux reculs qui ont débuté maintenant, il y a à peu près un an et demi, deux ans. Donc, il y a d'abord eu des reculs sur la loi sur la restauration de la nature, par exemple, qui rentre dans le farm to fork, puisque les agriculteurs réussiront à s'adapter, à être plus résilients au réchauffement climatique avec la nature, avec les éléments du paysage, etc. Donc, cette loi est mise en péril. Aujourd'hui, on ne sait pas si elle sera adoptée, alors qu'elle proposait une restauration nécessaire des éléments du paysage et de la nature. On a vu que la loi sur la réduction des pesticides, il y avait un auditeur qui mentionnait le coût que ça représente sur l'eau, par exemple, c'est aberrant, c'est énorme. Eh bien, malheureusement, la proposition de réduire de 50% l'utilisation des pesticides d'ici à 2030 a été rejetée, donc elle ne verra pas le jour sous cette mandature. Je mentionnais la loi cadre sur le système alimentaire qui touchait aussi aux questions de consommation, de cette question de concentration des pouvoirs, etc., du marketing et autres. Malheureusement, elle ne verra pas le jour. Donc tout ça, c'est extrêmement, extrêmement inquiétant. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ces dernières semaines, il s'est passé quelque chose d'absolument aberrant, c'est qu'on a été face à une réforme de la politique agricole commune express, un peu en catimini, je dois dire, qui a duré un mois et demi. Il n'y a pas eu de consultation publique, il n'y a pas eu d'étude d'impact. On a revu les conditions d'octroi aux aides à la baisse, mais plus qu'à la baisse. On les a finalement presque éliminées. Et quand je parle de conditions d'octroi ici, je pense aux conditions environnementales. C'est absolument choquant. Et ça a d'ailleurs été décrié par les agriculteurs eux-mêmes, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un courrier de la Bio et de la Via Campesina, donc l'équivalent de la Confédération Paysanne, qui ont rappelé avoir été, peut-être eux ont été consultés, contrairement au reste de la société civile, mais ils ont été consultés mais pas entendus, et que ces mesures anti-environnemental n'allait absolument pas résoudre le problème des agriculteurs, qui sont par ailleurs, comme je le répète et tout à l'heure, un problème de prix et de revenus qui sont exacerbés évidemment par la crise environnementale et climatique.
Alors Luc Vernet, on imagine que vous n'avez pas forcément exactement le même point de vue sur la question. En une minute, comment vous réagissez?
Oui, alors deux choses. La première, c'est qu'il faut avoir en tête que la réglementation sur les pesticides a été rejetée par une alliance un peu étonnante entre les écologistes et l'extrême droite, parce que les écologistes ont estimé que ça n'allait pas assez loin et qu'en fait il fallait cette réduction de 50% non pas à 2035 mais à 2030, et donc il y a eu une sortie de route pour un malheureuse du fait d'une volonté d'aller au-delà. La question n'est pas tant celle de l'objectif, parce que je pense que les transitions, tout le monde partage cette ambition. La question est celle des moyens et du chemin. Et on voit que le débat qui s'est cristallisé ces derniers temps est un débat qui se cristallise entre une approche des transitions par les contraintes administratives ou une approche des transitions par les incitations et les accompagnements. Je l'ai mentionné tout à l'heure, la dimension incitation de la politique agricole commune s'est érodée, alors que la dimension contrainte s'est renforcée. Et donc il y a un nouvel équilibre à trouver pour le prochain mandat.
On arrive déjà au terme de cette émission. Alors, on n'a pas forcément éclairé les programmes dans la mesure où tout n'est pas dit dedans pour l'instant en matière d'agriculture. En tout cas, ça donne des clés pour aller les lire, en fait. C'est ce à quoi on invite. Et puis, on a bien compris aussi qu'il y avait vraiment une articulation au sein de chacun d'entre nous, de l'électeur citoyen et du consommateur, et que c'était sur ces deux jambes-là qu'il fallait marcher.
Merci beaucoup, vraiment, à tous les deux, Faustine Badé-Fossé et Luc Vernet, d'avoir participé à cette émission. Merci à l'équipe de Bruxelles qui vous accueille en studio. Merci à Anne également pour cette émission. Et puis, on rappelle, allez lire les programmes de vos listes, de vos candidats. Et puis, n'oubliez pas d'aller voter le 9 juin. On va vous le rappeler d'ailleurs tout au long de cette semaine spéciale dont Je pense donc j'agis. Dans un instant, on va parler des jeunes agriculteurs ou non, mais en tout cas des jeunes qui sont concernés par l'agriculture, en Europe notamment. À tout de suite.